Interview.
15e siècle, sur les terres de l'ancien royaume d'Oyo, aujourd'hui disparu, la culture Yoruba a évolué jusqu'à nos jours.
Cyril Noyalé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au sein de Tous en Botte et vous êtes ici pour nous parler d'un film que vous avez réalisé intitulé Babalawo, un film qui se passe dans un pays de quelle Afrique ?
Alors, on est à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, du côté Bénin. Et c'est un film qui parle d'un guérisseur vaudou qui pratique aussi l'oracle qu'on appelle l'oracle Fa, qui est un oracle millénaire qui est pratiqué par les Yoruba, l'ethnie Yoruba. En fait.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner ce film à cet endroit ?
Alors moi, ça fait presque 25 ans que je pars au Bénin et que je fais des films avec mes amis béninois, des films sur les traditions qui disparaissent ou qui se folklorisent à cause de la modernité. Et on s'est formés tous ensemble, on est une équipe complète et à la base, moi je sors de la FEMIS, j'ai fait l'école de la FEMIS et j'ai ramené des professionnels français pour former une équipe béninoise et puis maintenant ça fait presque 10 ans, 12 ans qu'on est formés et le film Babalawo, on a mis 9 ans à le faire en fait, 9 années.
Et vous aviez réalisé d'autres longs métrages ?
Oui, j'ai fait en fait ce qu'on appelle un diptyque, donc deux films sur un culte qui s'appelle le Guélédé, qui est un culte qui rend hommage aux mères sorcières. Et c'est un culte qui est en voie de folklorisation, qui a été classé par l'UNESCO en 2011. Et depuis le classement par l'UNESCO, en fait, il y a beaucoup de marchands d'art qui sont venus récupérer les masques, parce que c'est une société masquée. On a fait deux films là-dessus, qu'on avait mis déjà 10 ans à faire ces deux films, et là on a mis 9 ans pour le film Babalawo.
Cette envie de tourner en Afrique, principalement, pour vous, c'est une histoire d'amour avec ce continent ?
Alors, au tout départ, moi, j'étais dans la vallée du Buëch et je m'occupais d'un cinéma itinérant. Et un jour, on est venu me proposer de faire un film de prévention sur le trafic d'enfants pour l'UNESCO, pour l'UNICEF, avec les clubs UNESCO. Et du coup, j'étais parti au Bénin donc il y a 25 ans pour faire ça. Et j'ai rencontré mes amis là-bas. On a rencontré des initiés qui nous ont parlé un peu de leurs problématiques au niveau de leurs traditions qui disparaissaient. Et puis, on leur a fait la promesse qu'on allait faire des films dessus. Et depuis, avec mes amis béninois, on essaye de s'attacher à faire tout ça.
Alors, ce film s'intitule Babalawo, qui est en quelque sorte une divinité.
Alors non, les Babalawo, c'est vraiment ce qu'on appelle les prêtres Fa et les guérisseurs. Il joue un rôle central dans la société béninoise. Comme c'est une société où on peut dire qu'il y a une sorte de manque d'État, ça reste des personnes fédératrices qui reçoivent toutes les confidences des gens et du coup ils ont ce rôle de médiateur de la société en fait. Et donc on s'est attaché à filmer un babalao qui ne fait pas payer ses consultations, ce qui est assez rare. Et donc, il a la confiance de toute la population. Ils viennent même de Lagos, au Nigeria, à 400 km de son cabinet pour venir le consulter, en fait. Et du coup, on a passé 9 années avec lui à filmer ses consultations. On a fait 6 tournages exactement. Oui. On s'est quasiment autoproduit parce que tous les tournages, on les a financés par du crowdfunding. Mais sur la post-production, on a trouvé une société de production qui s'appelle Bagan Film, qui nous a aidé à trouver les financements de la région Île-de-France. Et puis, on a pu finir le film en septembre. Là.
Alors, le babalawo est une personne qui est à l'écoute. Ouais. Et c'est déjà un gros travail, cette écoute de ces populations, de cette population qui vient le voir.
Oui, c'est que je vous disais, il a un peu ce rôle de médiateur où les gens lui font extrêmement confiance. Alors, ça peut être à double tranchant, parce que si c'est quelqu'un qui pratique le charlatanisme, ça peut être difficile pour les gens, mais lui, il se trouve que ça fait presque 30 ans qu'il pratique, et il a une grande connaissance des plantes aussi. Il a une divinité qui s'appelle Ossin, et c'est la divinité des plantes. Et donc, il est quasiment plus guérisseur que prêtre Fa, mais en tout cas, il a la confiance des gens.
C'est une transmission de génération ?
De père en fils, ouais. De père en fils, mais il a quand même des gens à qui il enseigne sa pratique. Mais au final, il transmet à ses fils. Et alors, la particularité de ce babalawo, c'est qu'il a des statuettes fétiches qui sont un peu le lien de transmission entre les dieux et lui. Et donc, il leur parle, et ça, c'est une pratique qui est de moins en moins courante. Et c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à ça, avec mes amis, parce que eux, mes amis béninois, s'étaient rendu compte, en fait, qu'il y avait, que c'était une pratique qui était en train de disparaître. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à lui au départ.
C'est en quelque sorte un médiateur, comme vous le dites, mais qui se nourrit aussi de toute connaissance, de manière à pouvoir répondre aussi à ses sollicitations, ses écoutes.
Alors, on est quand même dans une société vaudou. Donc, il parle avec ce qu'on appelle les orishas, qui sont les dieux vaudous, en fait. C'est quelqu'un, oui, qui est entre le médiateur et le docteur, en fait. Après, il n'hésite pas à dire à ses patients, quand il ne sait pas soigner, de les envoyer à l'hôpital, il n'y a pas de problème pour lui. Mais bon, les hôpitaux là-bas, on ne peut pas dire qu'ils sont à la pointe de la médecine, donc ils font beaucoup plus confiance aux guérisseurs des plantes qu'à la médecine traditionnelle.
Alors, quand on regarde la bande-annonce, on se rend compte que c'est un village où les cases sont sur pilotis.
Alors, non. En fait, ce que vous voyez dans la bande-annonce sur pilotis, c'est ce qu'on appelle les greniers. C'est justement, il n'y a pas d'électricité là-bas, en fait. Donc, même au niveau logistique, pour nous, ça a été assez compliqué. Mais du coup, oui, leur nourriture, ils le mettent sur pilotis pour éviter que les insectes s'y attaquent. C'est une société agraire, hein, quand même. En plus d'être guérisseur et en plus d'être médiateur de la société, il est aussi agriculteur. Donc, il cultive ses propres plantes pour pouvoir soigner les gens, en fait.
Qu'est-ce qu'on lui demande à cet homme ?
Alors, ça peut être toutes sortes de choses, en fait. Des choses les plus absurdes aux choses les plus graves. Ça peut être parfois pour lorsque la médecine ne peut pas soigner, pour soigner des maladies qui peuvent être graves parfois. Ça peut être aussi pour des petits bobos du quotidien, mais ça peut être aussi pour des questions qui concernent la sorcellerie, parce qu'on est dans une société vaudou. Ça peut être aussi pour quelque chose de savoir si sa moto va tenir longtemps. Des choses assez absurdes, en fait, mais les gens lui font tellement confiance qu'ils viennent pour tout et pour rien.
C'est basé sur la croyance.
C'est basé sur la croyance et en même temps sur quand même une grande connaissance des plantes, pour les soins médicaux en tout cas. Et après, l'oracle Fa que pratique Babalao, c'est un peu comme l'horoscope en fait. C'est quelque chose qui est dans la société béninoise. Tous les Béninois, quelle que soit leur croyance, parce qu'ils pratiquent le syncrétisme, donc, c'est-à-dire ils sont catholiques et vaudouistes, par exemple, mais ils vont consulter le Fa pour n'importe quoi, en fait. Et, par exemple, au jour de l'an, à la télévision nationale béninoise, il y a le Fa de l'année, un peu comme pour l'horoscope, en fait. Voilà.
Et il y a justement la société moderne. Quelle est sa place dans ce village ?
Alors, quand même, Babalao, en fait, c'est quelqu'un qui a conscience, par exemple, des caméras. Donc ça, c'est toujours un dilemme qu'on a de venir faire des films dans des sociétés traditionnelles et on a peur de leur faire perdre un peu leur valeur et leur tradition. Mais là, c'est nous, on travaille d'une manière assez particulière avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on montre les rushs à tout le monde. Et ils valident ou pas ce que nos images, en fait. Et là, il se trouve que lui, il a pris conscience, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est que notre objectif, ils se l'accaparent eux-mêmes, et du coup, lui, il a eu conscience qu'il transmettait quelque chose à ses enfants et à ses fils et aux gens. Et ça, ça a été très important pour nous, en tout cas.
Vous parlez donc de cette transmission, hein, d'une génération à l'autre. Comment se perd-elle ? Est-ce qu'il y a en quelque sorte un tuilage avec la famille pour prendre la succession ?
Alors, il a plusieurs fils et filles aussi. Il ne s'arrête pas à une succession qui pourrait être uniquement masculine. Mais par contre, ses enfants régulièrement vont aux consultations et ils voient un peu ceux qui sont le plus intéressés par la pratique. Et c'est là qu'il fait un choix. Quand on a tourné le film, il n'avait pas encore fait son choix. Il se trouve que là, on est retourné pour lui montrer le film et il a validé un des jeunes que nous avions filmé.
Ce village, comment s'appelle-t-il ?
Alors, il s'appelle Iga.
Et comment avez-vous eu connaissance de ce lieu ?
Alors, il se trouve que moi, je travaille avec des Béninois. Donc, comme je vous disais, le Fa, c'est quelque chose de très important pour tous les Béninois. Et du coup, à chaque tournage, on allait voir un prêtre Fa pour savoir si les orichas, les dieux, étaient d'accord pour qu'on continue notre démarche. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Parce qu'il a quand même une certaine réputation, vu qu'il ne fait pas payer ses consultations. Et au départ, on est arrivé comme ça, là-bas. Et il s'est trouvé qu'on a vu qu'il parlait avec des statuettes fétiches. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu chez les prêtres Fa. Et du coup, on a trouvé ça non seulement spectaculaire, mais en plus rare.
D'ailleurs, cette notion du temps, comment se ressent-il dans ce village ? On a l'impression, quand je vous écoute, c'est que c'est au jour le jour, en quelque sorte, du quotidien. Et donc, autant vous pouvez avoir une bénédiction, et puis le lendemain, vous retrouvez avec une suspension possible.
Alors oui, voilà. Ça nous est déjà arrivé, parce qu'avant chaque journée, il fallait qu'on demande aux orichas si on pouvait rentrer dans le cabinet. Et ça nous est arrivé de remettre tout en question parce que pendant 3 semaines, on ne pouvait pas rentrer dans le cabinet et ça devenait un problème pour toute l'équipe. Mais on a persévéré et puis on a réussi à faire un film qui, en plus, lui convient très bien parce qu'il a été ravi du résultat. Il avait très peur qu'on divulgue ses secrets parce qu'on avait quand même pas mal d'interdits. On est dans une société vaudou où on n'avait pas le droit de filmer sa pharmacopée parce qu'il ne voulait pas qu'on dévoile ses secrets. On n'avait pas le droit non plus de filmer son orisha à lui, le haut sein. Et puis il y avait quelques personnes qu'on n'avait pas le droit de filmer également. Mais on a fait avec les interdictions. De toute façon, tous nos films à chaque fois, comme on est dans une société vaudou, il y a toujours des interdits. Et on prend toujours le temps, au moins un an ou deux, avant de commencer à sortir les caméras pour savoir un petit peu si on pourra faire un film et si c'est jouable pour nous, quoi.
Dans ce cadre où le temps est en quelque sorte en suspens, peut-être, qu'est-ce que vous avez découvert aussi dans cette manière de vivre dans ce village ? Est-ce que vous vous êtes senti confronté par rapport à votre mode d'existence occidental ?
Alors moi, ça fait 25 ans que je pars là-bas, donc je suis un petit peu habitué. Mais on a tourné dans des circonstances un petit peu particulières, parce qu'on était en pleine guerre entre les Peuls et les populations locales. Donc les Peuls, c'est les éleveurs qui se déplacent un peu comme les gitans de l'Afrique, en fait, on les appelle comme ça. Ils se déplacent avec leurs troupeaux et ils ravagent un petit peu tous les champs des agriculteurs. Donc il y a eu une vraie guerre avec des morts et tout pendant notre tournage. Mais donc c'était très particulier. Mais après, moi et tous les membres de l'équipe, on est habitués. On a fait un certain nombre de films, mais on a fait aussi un certain nombre de projets qui ont été avortés parce qu'on pouvait pas sortir les caméras, soit pour d'autres raisons qui pouvaient être plus ethniques. Mais on est habitué à ce temps qui passe d'une manière assez particulière et on sait déjà que on pouvait pas tourner entre midi et 17h. Pour une question de lumière, donc il y a toujours cette donnée-là et le temps passe différemment des sociétés occidentales, ça c'est certain.
L'équipe, vous étiez une dizaine, moins ?
Ah, on est moins. Si on arrive à une dizaine, c'est beaucoup trop. Il faut qu'on se fasse tout petit aussi. Donc, en fait, on est une équipe de 7 personnes. Et puis après, on prend des gens aussi du coin en général à chaque projet. Bon, il se trouve que là, depuis la fin du tournage, de ce tournage-là, j'ai 3 de mes amis qui sont décédés. Donc c'est un petit peu particulier, on est un petit peu en deuil et on essaie de défendre ce film pour eux aussi. C'est un film qui va être présenté au Bénin aussi dans pas très longtemps et voilà.
Vous avez un soutien justement de ce pays, du Bénin, pour cette réalisation ?
Non, on n'a jamais eu de soutien du Bénin.
Est-ce qu'on peut peut-être rappeler un peu le Bénin, quel ouais. pouvoir existe actuellement et comment est perçu ce pouvoir par rapport à la population rurale ?
On est quand même sur une société démocratique. Certains diraient qu'il y a un côté autoritaire en ce moment, mais peut-être pas plus qu'en France. Ça reste un pouvoir politique qui est... en fait, il y a plusieurs langues au Bénin, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a le Nord, il y a le Sud, et puis dans le Sud, il y a beaucoup d'ethnies. Donc le français, c'est la langue qu'ils apprennent à l'école. Le pouvoir béninois est quand même respecté, enfin l'autorité politique. Et il y a des élections qui se font de manière démocratique. Je mets quand même des guillemets là-dessus, mais bon, voilà. Je mets des guillemets aussi sur la France.
Comment se prépare un film comme ça, justement, une équipe ? Vous prenez les devants d'une année à l'autre pour prévoir un peu ce futur tournage ?
Alors, comme en plus on pratique du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on va chercher l'argent là où il est, et donc on prend beaucoup de temps à faire ça en fait. Moi, si je pouvais, j'aimerais être surtout en Afrique, mais en fait, je suis obligé de revenir ici pour faire des collectes, des choses comme ça. Ouais. En général, on essaie de se préparer, de préparer un petit peu bien à l'avance nos tournages quand même. De savoir un peu quelle équipe est disponible aussi au moment du tournage. Et ça demande, oui, des grosses préparations, que ce soit dans l'écriture, dans la préparation du matériel, dans l'acheminement du matériel, parce que là où on a tourné, en fait, on était dans un village où on peut y accéder quasiment que sur des pistes, et des pistes, s'il se met à pleuvoir, donc on ne peut pas tourner en saison des pluies, par exemple, parce que les routes ne sont pas accessibles. Donc ça demande toute une logistique qui est assez particulière. Et puis après, on reste sur place et on essaye d'anticiper les problèmes, parce que comme on n'a pas d'électricité, il faut qu'on arrive avec notre propre groupe électrogène. Donc il y a beaucoup de choses de logistique à organiser, ça, c'est certain.
Ouais. Je reviens un peu sur les personnes qui participent dans ce film. Il y a ce Baba Awo, donc avec ses humeurs, hein, entre guillemets. Mm-hmm. Mais c'est les patients ou les personnes qui viennent le voir, quelle est leur réaction face à ce matériel de cinéma ?
Face à la caméra. En fait, avant chaque consultation, on leur demande leur autorisation de savoir s'ils sont d'accord pour être filmés. Et après chaque consultation filmée, on leur montre les images aussi. Donc, on a eu pas mal de refus quand même, faut bien l'avouer. Et il y a une méfiance envers les médias, envers les Occidentaux aussi, parce que même si mon équipe elle est presque 100% béninoise, moi je reste blanc. Et donc il y a forcément une méfiance, et à nous de leur faire comprendre qu'on est le plus honnête possible dans notre démarche. Et puis Baba Lao était un vrai soutien aussi pour ça. Il nous disait que bon, après on a mis 9 années à faire le film, et plus on mettait de temps, plus la méfiance était grande, parce qu'on se dit, les gens se disaient qu'il y avait toujours pas de résultat au bout de 9 ans, et ça a été de plus en plus compliqué.
Baba Lao est une personnalité respectée, écoutée. Est-ce qu'il y a aussi une notion de religion au Bénin ?
Ah bah c'est le vaudou. Le vaudou, c'est pas des pratiques, c'est pas des rites. C'est vraiment une vraie religion, hein. Avec un panthéon. C'est une religion animiste, un peu comme on pourrait comparer avec les Grecs. Il y a un panthéon grec vaudou, avec des dieux de la foudre, des dieux de la terre, de la mer. Enfin, ça marche un peu comme ça. Et un dieu suprême qui est au-dessus de tous ces demi-dieux, en fait. Voilà.
C'est pour vous, c'est enrichissant de voir un peu ce modèle de société, donc.
Alors, de toute façon, voyager, c'est toujours enrichissant. Ça, c'est ce que je pense. Moi, maintenant, ça fait tellement longtemps que je pars là-bas que j'ai une certaine proximité avec cette religion. On n'est pas dans le jugement. Il faut absolument jamais être dans le jugement dans ce cas-là. On étudie des religions, donc et des croyances et des façons de croire aussi qui sont forcément différentes de ce que moi j'ai pu connaître en France, hein. Donc on essaye d'être le plus neutre possible là-dessus et voire même plus parce que il faut essayer de se mettre à la place des gens et de les comprendre. Donc moi j'aime pas trop parler de ma spiritualité, mais je me sens plus proche de personnes qui sont proches de la nature que de monothéistes, si je devais expliquer ça comme ça, même si j'ai ma propre spiritualité, mais ça me permet de rester un petit peu neutre par rapport à tout ça. Et il y a, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de la religion monothéiste et essaye de grignoter sur justement la religion animiste. Et il y a beaucoup d'évangélistes et beaucoup d'églises, et d'ailleurs, qui vont voir Baba Lao aussi, alors qu'ils sont les premiers à les critiquer. Mais il y a aussi cette lutte qu'on retrouve dans le film, cette lutte entre le monothéisme et la religion vaudou qui est présente, en fait.
Et comme vous dites, d'être en relation plutôt délicate, hein, avec la population, vous êtes aussi en quelque sorte toujours sur vos gardes de ne pas dire un mot de trop
Non.
Mais est-ce qu'il y a une personne référente auprès de vous ?
C'est Baba Lao.
C'est Baba Lao.
C'est Baba Lao. Et le simple fait qu'on soit chez lui, rien ne pouvait nous arrêter. Nous arrivait, en fait, absolument rien. Il y avait même une ligne de protection où la population n'avait pas le droit de venir. C'était là où on avait notre matériel. Et ça a été extrêmement respecté. C'est assez impressionnant, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas une crainte de Baba Lao, mais il y a un tel respect de ce personnage-là que le simple fait qu'on soit sous sa protection suffisait.
Pour ces personnes, le Baba Lao, c'est en quelque sorte l'intermédiaire entre les dieux et la population.
Complètement.
Et donc, ce qu'il dit n'est pas discutable.
C'est pas dissu. En tout cas, on peut en discuter quand même, mais en tout cas, il y a un respect de son territoire, de sa parole. Et effectivement, il a fait tellement ses preuves au sein de la population que Il n'y a rien à lui dire, en fait, ça c'est certain.
Il y a toujours, c'est toujours dans un sens, ce sont les personnes qui viennent à lui ou alors il peut venir aussi à la population.
Ça peut lui arriver d'aller chez les gens, ça reste assez rare quand même. Mais il y a quand même des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, donc il le fait des fois. Il y va avec sa petite moto, il va aussi sur le marché de Pobec, qui est la première ville qui est quand même à 80 km de son cabinet. Mais il y va aussi pour aller voir des marchands, pour prendre des ingrédients de choses aussi sur le marché. Mais il peut se déplacer, mais ça reste quand même son cabinet. C'est le lieu où on peut le voir à tous les coups, quoi.
Et c'est un village avec une population de combien ?
Il doit y avoir maximum une centaine d'habitants, maximum. Hein. Et puis ils sont très éparpillés, c'est une société agraire, donc ça ressemble à peine à un village, en fait. Il y a une place centrale et puis après il y a le cabinet de Babaï, c'est à peu près les deux seuls endroits du village.
Voilà. Et en quelque sorte, est-ce qu'il existe une école ?
Oui. Bah, pour le coup, y a, dans tous les villages béninois, il y a une école qui existe avec un enseignement qui se fait... qui est très sévère d'ailleurs pour les enfants, mais ça c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest où en fait l'école est payante quand même, donc c'est vraiment un sacrifice pour les familles d'envoyer leur enfant. Donc un enfant qui serait distrait par l'école, ça irait pas du tout, qui sont beaucoup plus attentifs que dans nos sociétés à nous, ça c'est clair, beaucoup plus studieux en tout cas.
Cyril, toi, tu donc présentes ce film actuellement. Est-ce qu'il y a des séances prévues prochainement ou des participations à des festivals ?
Pour l'instant, on postule dans plusieurs festivals, donc on attend les réponses de pas mal d'endroits. Il va être présenté à Niki au Bénin, ça c'est certain. Il a été sélectionné pour le festival au Bénin. Là, pour l'instant, il sera présenté dans les caravanes d'Afrique à Lyon, dans pas mal de festivals français. On est en attente de réponse, c'est le début de l'exploitation. Hein. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le projeter à tous en botte pour l'instant, parce qu'on donne la priorité au festival, mais pour l'instant c'est vraiment le début de l'exploitation, donc je ne peux pas complètement répondre à cette question.
Et comme ce film se constitue aussi par le crowdfunding, est-ce qu'il y a un site internet accessible aux auditeurs pour découvrir un peu ce travail et peut-être d'y participer ?
Alors, en fait, moi, je marche beaucoup avec Facebook parce que c'est un peu grâce à cette plateforme que j'ai pu faire des collectes. Donc, sur ma page Cyril Noyalet, on peut retrouver toutes les informations concernant le film. Après, sur le site de Bag & Film aussi, qui sont mes producteurs, et sur le site de Next Film, c'est mes distributeurs. J'ai des distributeurs parisiens aussi. Donc, sur leur site à eux, on peut aussi retrouver les références.
Cyril Noyalet, merci beaucoup de
merci
nous avoir donné un peu de ton temps pour parler donc de Baba Lao.
Merci à vous. Bonne
soirée.
Journée.
Au revoir.
Thank you.